au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et c'est la nouvelle formule de nos rendez-vous au cœur de l'histoire que nous propose Franck Ferrand cette rentrée 2016. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Trois parties, une histoire inouïe, un entretien vérité et un grand destin en feuilleton. Nous parlons de Chaplin.
Oui, pour cette première semaine, votre feuilleton nous fait revivre le destin incroyable de Charlie Chaplin.
Exactement. Alors nous le retrouverons à la descente du cargo qui l'a conduit jusqu'aux États-Unis. Il ne se doutait pas à ce moment-là qu'il allait tourner de petits films pour le cinéma et devenir très vite une gloire mondiale.
Et votre invité connaît mieux que quiconque les débuts du cinématographe, c'est comme ça qu'on disait à l'époque.
Hein. Oui.
Effectivement, il s'agit d'Alain Rioux, historien du cinéma et chroniqueur à l'Obs.
Et oui, c'est une chance qu'Alain Rioux puisse être des nôtres cet après-midi. L'histoire inouïe que je vais vous raconter dans un instant n'est d'ailleurs pas sans lien avec ses débuts héroïques du cinéma. Je vais en effet vous raconter un incendie parisien des plus meurtriers. Or, c'est justement dans une cabine de projection que ce jour-là, le feu a pris.
Un incendie terrible, les secrets de l'invention du cinéma et les débuts de Charlie Chaplin devant la caméra, on ne devrait pas s'ennuyer aujourd'hui.
Ça tombe bien, chère Anissa, parce que je n'avais pas du tout l'intention de m'ennuyer.
Europe 1,
14h-15h, au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand.
L'année 1897 résume toute la belle époque, le temps de l'alliance franco-russe, des essais d'aviation de Clément Ader, du triomphe de Cyrano de Bergerac. Pourtant, c'est au printemps 97 que survient en plein Paris une catastrophe terrible. Dire que le soleil était radieux au début de l'après-midi de ce mardi 4 mai. Un landau s'arrête devant le numéro 17 de la rue Jean Goujon, au cœur du 8e arrondissement. C'est pas loin des Champs-Élysées, c'est tout près de nos studios d'Europe 1, qui évidemment à l'époque n'existaient pas. Celui qui descend du landau attire l'attention et pour cause, c'est un prince français, petit-fils de l'ancien roi Louis-Philippe. Il porte le titre de duc d'Alençon. Certes, on est maintenant en République, la 3e République, mais on n'a jamais tant exalté la noblesse. À 52 ans, Ferdinand duc d'Alençon est un homme comment pourrait-on le définir ? C'est un homme élégant, dont la haute stature en impose. Son visage, qui s'orne d'une moustache et d'une barbe grise, extrêmement bien taillée, bien coupée, ce visage exprime la droiture, la sensibilité. Le prince se dirige vers l'entrée d'une grande galerie qui a été hâtivement construite en bois, sur un terrain à bâtir. Au fronton, en lettres rouges, ces mots qui font encore frémir « Bazar de la charité ». Le duc d'Alençon franchit d'un pas alerte les portes à tambour. Il sait que l'inauguration va avoir lieu là, dans les minutes qui suivent. Le bazar de la charité, à cette époque, est un des événements de la saison parisienne. Chaque année, depuis 1885, il fédère les bonnes volontés. Les grandes dames, chacune derrière son stand, viennent y jouer à la vendeuse pour financer des œuvres de charité. C'est aussi, sans le dire, une sorte de concours d'élégance. Je cite Marguerite Bourset, qui était biographe du duc et de la duchesse d'Alençon. Surat, gaze, grenadine, manches bouffantes, boas de tulle ruchée, chapeau en paillettes ou en aigrettes, dit-elle, beaucoup de jeunes filles, de nombreuses douairières aux cheveux blancs, gonflant en auréole autour du front, tout ce qui porte un nom dans le Paris charitable, du faubourg Saint-Germain au parc Monceau. On imagine cette ruche très, très élégante et se frayant un chemin. Dans cette foule très élégante, le duc d'Alençon jette un regard au décor mis en place cette année par les organisateurs. Sous le vélum de toile goudronnée qui laisse filtrer la lumière, on a recréé toute une sorte de rue médiévale donnant à chaque stand, à l'aide de tissus et de carton-pâte, l'allure d'une échoppe. Alors des échoppes qui, évidemment, s'ornent de très belles enseignes, à l'ancienne hein, comme au Moyen-Âge, à la tête noire, au cadre en bleu, au grand cerf. Tout ça ne semble ni très solide ni très authentique, mais l'effet général est réussi. Personne ne réalise que cela pourrait s'enflammer. Nouveauté de cette édition 1897, un espace a été réservé à une invention nouvelle déjà en vogue et un panneau l'annonce « Le cinématographe perfectionné, photographies animées, la plus merveilleuse découverte du siècle, donnant l'illusion de la vie réelle. Prix d'entrée au cinématographe, 0 francs 50. » Le duc d'Alençon est un petit peu las de jouer des coudes. Il approche enfin du fond de la galerie, il approche de sa destination, le stand des noviciats dominicains. C'est celui que tient sa femme, Sophie. La duchesse d'Alençon n'est pas seulement devenue par son mariage une princesse française. Personne dans le beau monde n'ignore qu'elle est la propre sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, celle qu'on surnomme Sissi. Tout le monde admire cette femme à la beauté mûre, peut-être un petit peu sèche, mais sa fragilité ne doit abuser personne. Derrière son étal foisonnant, Sophie ne se ménage pas, au point que son mari s'en inquiète au moment où il la retrouve. « Assieds-toi donc un moment, tu es toute pâle, lui dit-il. » Elle est touchée, Sophie, par l'attention de son mari. Elle lui sourit. « C'est que l'atmosphère est étouffante, dit-elle. Quelle chaleur il fait ici. Qu'importe, au fond, les clients sont tellement ravis d'avoir affaire pour leurs menus achats à une vraie princesse, rendez-vous compte, la sœur de Sissi. » Le prince aime tendrement son épouse. Il n'est jamais à court de délicatesse à son égard. Sophie lui a montré aujourd'hui une belle potiche qu'elle a acquise quelques pas plus loin sur un autre stand. « Oh bien, si tu veux, je te la rachète, » dit le prince. Et évidemment, elle se prête au jeu. Elle lui remet l'objet en échange d'une belle pièce d'or qu'il dépose d'un geste affectueux dans la paume de sa femme grande ouverte. Il est 4h15 à ce moment-là. Le représentant du pape en France, le nonce apostolique, va passer au stand et le duc d'Alençon va accompagner le prélat. Il se fait un devoir de le raccompagner jusqu'à l'entrée principale. Il leur faut donc se frayer, à eux aussi, un chemin au sein de cette foule compacte de plus de 1500 personnes. Ferdinand se trouve tout près des grandes portes à tambour quand on entend le premier cri « Au feu !» Dans la cabine de projection du cinématographe, il a suffi du craquement d'une allumette pour déclencher une catastrophe qui, entre ce premier signal d'alarme et l'effondrement complet de la toiture, va durer 14 minutes exactement, 14 minutes d'horreur. Déjà, on voit de la fumée sortir du salon du cinéma. Avant tout, montrer l'exemple, le duc d'Alençon va grimper sur une table. Il essaie de raisonner cette foule qui s'affole déjà. Il essaie d'éviter la bousculade. « Allons, gardez votre calme, dit-il. Vous m'entendez ?» Vous pensez, le prince essaie de donner des instructions. Il a des souvenirs de sa vie militaire. Il essaie d'organiser l'évacuation, mais qu'il l'écoute. En quelques secondes, la panique a gagné le public et il n'y a rien à faire. De son côté, à l'autre bout de la galerie, Sophie a eu la même réaction. Surtout pas de panique. Elle affiche un sang-froid exemplaire. Cette duchesse d'Alençon entend bien rester maîtresse d'elle-même. Elle indique à ses vendeuses une issue dérobée qui donne sur un terrain vague, juste à l'arrière de la structure. Mais attention, dans l'ordre. Les jeunes filles d'abord, insiste-t-elle, puis les visiteuses et après seulement les vendeuses. Et elle-même partira la dernière, un peu comme un capitaine de navire attendant la dernière chaloupe. Sauvez-vous, partez vite, je sortirai la dernière, dit-elle. Est-ce qu'elle songe à son mari? Oh oui, sans doute et même certainement. Ferdinand, de son côté, constate l'inutilité de ses directives. Il se dit que ça ne servira à rien, personne ne l'écoute, alors autant penser un peu à lui. Et pour tout vous dire, son unique obsession, c'est d'aller rejoindre là-bas, au bout, le stand des noviciats. Son obsession, c'est de retrouver son épouse.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et comme chaque jour, Franck Ferrand, vous nous faites vibrer en ce début d'après-midi avec une histoire pleine de suspense, l'histoire de l'incendie du bazar de la Charité à Paris. Alors on l'a vu, tout le décor était en matière inflammable.
Oui.
Il n'y avait pas de normes à l'époque.
Alors non, bien sûr, il n'y avait pas de normes et surtout il y avait eu beaucoup de légèreté. On avait un souci d'économie extraordinaire. Le but était de récolter le plus possible d'argent pour les œuvres et donc d'en dépenser le moins possible pour l'organisation. Alors vous savez, le bazar de la Charité, c'était beaucoup déplacé. Hein. Il avait été successivement rue du Faubourg Saint-Honoré, rue La Boétie, on l'avait déplacé un peu partout. Et donc, on arrive à trouver un lieu qui est prêté rue Jean Goujon, au 17 de la rue Jean Goujon. C'est un terrain vague sur lequel on a construit donc cette espèce de structure qui est une sorte de grand barnum gigantesque, si vous voulez. Hein. Et ça n'a pas été loué, ça a été prêté. Donc on économise les 5000 francs. Monsieur de Maco, qui dirige l'association, a économisé ces 5000 francs. Et alors, il a racheté du décor, qui est un décor de théâtre, en quelque sorte. Et ce décor, dit-il à ses associés, savez-vous combien nous l'avons racheté? Alors on dit, je sais pas, 15 000, 20 000 francs. 180 francs, dit-il, Monsieur Chaperon, décorateur de l'opéra, nous l'a réorganisé, et Chaperon dira, je n'ai utilisé que de la toile peinte, du carton pâte et du bois blanc. Bah oui, tout va bien. Ouais. Sauf que ça brûle, bien entendu. Ouais. Et maintenant, ça brûle beaucoup. Le feu se propage à une vitesse folle, c'est bien simple. Le décor médiéval paraît avoir été conçu pour nourrir ce feu. Hein. Et Ferdinand se débat à contre-courant pour tenter de se rapprocher au fond de la galerie du stand de sa femme. Autour de lui, il y a déjà de pauvres gens qui sont brûlés, certains se transforment en torches vives. Les plus touchés sont les femmes dont les vastes robes pleines de jupons ont tendance à capter les flammes. Vous imaginez l'affreux spectacle. De partout tombent déjà des morceaux de décor en feu, car le bazar de la Charité n'est plus qu'une immense fournaise en quelques minutes seulement. La flamme, nous dit Mademoiselle Bourset, jaillit de partout, elle bondit du sol, elle gicle des murs, elle pleut du plafond. Fond, le vélum fond liquéfié, goudron bouillant qui aveugle et brûle. Une chaleur infernale rayonne de ce brasier, un voile de fumée s'appesantit, âcre, opaque, suffocant, qui gorge les poumons, ensanglante le nez et les yeux, suie, graisse, résine, chair grillée. Et Sophie ? Mais où est-elle ? Se demande Ferdinand. Comment la retrouver ? Évidemment, il ne se doute pas que de son côté, sa femme a renoncé à sortir par l'arrière pour venir à sa rencontre du côté de l'entrée principale. Parce que Sophie en est certaine, il ne sortira pas, son mari ne sortira pas de cet enfer sans elle. Alors elle avance, évidemment, elle est frappée par ses corps qui s'amoncellent maintenant sur le sort. La sœur de Sissi a, comme tout le monde, du mal à respirer. Elle est brûlée, elle lutte pour conserver son calme et elle comprend que pour avancer, il lui faudrait à elle aussi piétiner toutes ces personnes en détresse qui sont effondrées à terre. Il y a des dames âgées, des messieurs en piteux état, il y a même des enfants. Et là, les larmes lui montent aux yeux. Elle ne peut pas s'y résigner. Pour elle, la question ne se pose même pas. Il ne saurait être question de se sauver de cette manière-là. Alors, il y a un groupe qui passe à côté d'elle. Ce sont des jeunes filles qui la reconnaissent. Elles sont bien décidées à rejoindre une des issues secondaires. Et l'une d'elles saisit carrément la princesse. Elle essaie de l'entraîner à sa suite. « Venez avec nous. Nous avons une chance si nous passons de ce côté. » Seulement, la duchesse d'Alençon se dégage. « Vous êtes jeune. Vous allez y arriver. Ne prenez pas le risque que je vous retarde, » dit-elle. Quelques secondes après, un autre groupe essaie de tirer Sophie de ce mauvais pas, mais encore une fois, elle ne se laisse pas faire, elle désigne d'autres personnes. « Sauvez, prenez-en d'autres, dit-elle, sauvez les autres. » Sophie est un peu perdue, bien sûr, dans toute cette confusion, mais elle n'a qu'une idée, une idée fixe, c'est de retrouver son mari, bien entendu. Et c'est à ce moment-là que va se produire, j'allais dire le drame au milieu du drame. Le duc et la duchesse d'Alençon sont en train de progresser l'un vers l'autre au milieu de cette espèce de chahut général, au milieu de cette fournaise. Ils vont finir par se croiser dans l'allée en flammes. Ils sont dans cette foule hurlante. Ils passent forcément à quelques centimètres l'un de l'autre, mais ils ne se voient pas. Tout autour, l'incendie qui gronde comme une machine achève de détruire la galerie. Des pans entiers maintenant sont en train de s'effondrer. Le plancher est crevé par endroits. L'air est totalement irrespirable. « Vous n'avez pas vu la princesse ?» demande Ferdinand, qui maintenant est arrivé au stand des noviciats. Où est-ce qu'il en reste ? Et à l'entour, ce n'est que gémissements, sanglots. On s'écharpe aussi, hein. Il faut dire qu'on se rue de coups. Les beaux messieurs à queue de pie piétinent sans vergogne les dames. Des animaux traqués qui se déchirent, voilà à quoi on a l'impression d'avoir affaire. Des gens repris par l'instinct de survie, tout simplement. Dans cet enfer, On peut dire que le pire aura côtoyé le meilleur. Des personnes pourtant sauves, qui étaient à l'extérieur, sont rentrées dans le brasier pour tenter d'apporter de l'aide. Et d'autres se sont mises désespérément à la recherche d'un être cher. C'est le cas évidemment de Ferdinand et de Sophie. Ferdinand, la barbe roussie par les flammes, qui cherche désespérément sa femme. Je cite à nouveau Marguerite Bourset. Son vieil instinct courtois et chevaleresque joue presque malgré lui. Plusieurs témoins l'aperçoivent soulevant des femmes à bout de bras, les hissant au-dessus des barricades, de corps entassés, remettant debout des malheureuses tombées à terre et qu'on va piétiner. Durant un temps mortel, il se débat en vain, enlisé dans cette foule dont la densité paraît augmenter à mesure que le cercle de flammes se rétrécit. Parce que ça a été tellement vite. Encore une fois, les matériaux inflammables qui ont été partout employés font que le feu a gagné l'ensemble de la structure en très peu de temps, et au bout de 7-8 minutes, tout n'était qu'un grand brasier. Il n'y avait plus d'endroit où se sauver, ou quasiment plus. C'était vraiment un enfer terrible. Le duc d'Alençon, au milieu de tout ça, perd espoir, bien entendu. « Sophie, crie-t-il, mais réponds-moi !» Sa voix est étouffée, car on pense à la chaleur et on pense à cette odeur irrespirable, mais et il faut aussi imaginer le bruit, les gens qui crient, les structures qui s'effondrent partout. On ne voit plus rien à cause de la fumée et le malheureux désespère. Et si elle se trouvait parmi tous ces corps, pense-t-il, et il voit ces gens qui sont là, qui jonchent le sol littéralement, Ferdinand refuse d'y penser, il ne doit pas. Et à ce moment-là, il y a une femme qui l'a reconnue et qui s'approche de lui et qui lui adresse la parole. Elle lui dit « La duchesse d'Alençon est sauvée, on l'a emmenée, elle est déjà là sur le terrain vague », et elle désigne le terrain qui est à l'arrière de la structure. Alors le duc cherche des yeux cette petite issue. Sophie est sauvée, cette femme a dit « on l'a emmenée », mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'il a fallu la secourir ou simplement l'accompagner? Il s'approche de la sortie, le duc d'Alençon, il se mêle au rescapé, alors on le voit perdre l'équilibre, il chute, il se relève. La grande question est de savoir si lui maintenant va pouvoir s'extirper de la fournaise.
Au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand.
Et cet après-midi sur Europe 1, Franck, vous nous racontez l'enfer de cet incendie du bazar de la Charité à Paris en mai 1897, avec le duc d'Alençon qui est pris au piège de l'incendie, qui cherche sa femme. Alors, est-ce qu'il va la retrouver?
Et là, on lui dit que sa femme est sur le terrain vague derrière. Alors, quand je dis un terrain vague, il faut bien comprendre que la structure a été bâtie sur tout le terrain, si vous voulez. Elle touche aux deux immeubles, donc on ne peut pas passer. Pour être tout à fait précis, il y a tout à fait au bout de la structure, il y a un tout petit passage où on peut se faufiler, mais personne ne le voit dans l'affolement général et dans la fumée, etc. Donc les gens qui se retrouvent sur la pelouse, c'est un grand mot, qui se retrouvent sur cet espace herbeux à l'arrière de la structure, sont bloqués entre le brasier et l'immeuble qui est là tout près, et on ne peut pas entrer dans cet immeuble parce qu'il y a tout le soubassement, etc. Il faudrait grimper sur plusieurs mètres. Alors le seul moyen, c'est de passer par des espèces de jours de souffrance, vous voyez, des espèces de toutes petites fenêtres qui sont barodées, et donc il va falloir scier les barreaux. Ce sont des employés de l'hôtel voisin qui vont venir scier les barreaux pour que les gens un à un arrivent à se sauver. C'est une horreur, mais le duc est maintenant là sur ce terrain vague. Il lève les yeux vers le ciel. Et ça, c'est terrible parce que le ciel est d'un azur imperturbable. Alors le duc d'Alençon reprend son souffle. Autour de lui, les visages sont complètement défaits. Il faut imaginer les gens complètement échevelés, les vêtements dépenaillés. Sophie, c'est son obsession. Il cherche sa femme et il a beau tourner éperdu, il ne la trouve pas. « Avez-vous vu la princesse ? » demande-t-il. Hochement de tête désolé, regard compatissant. Il va falloir plusieurs minutes au duc d'Alençon pour que la vérité s'impose à lui. Sa femme n'est pas sur ce maudit terrain, un terrain donc dont je vous ai dit qu'il est sans issue. Alors, pour Ferdinand, à ce moment-là, ça s'impose. Il lui faut retourner à l'intérieur, s'acharner à rentrer dans le brasier. Et c'est à ce moment-là qu'une main saisit son bras fermement. C'est un médecin, le docteur Récamier, qui l'a reconnu et qui lui barre le chemin. « Mais vous êtes fou, prince, n'y allez pas !» lui dit-il. Ferdinand essaie de se dégager. Les deux hommes en viennent aux mains. « C'est trop dangereux !» lui dit l'autre. « Trop tard !» Et à ce moment-là, un bruit terrible, sinistre les interrompt. Le toit du bazar, d'un seul coup, dans une espèce de gigantesque gerbe d'étincelles, le toit du bazar vient de s'écraser sur les derniers survivants. Ce 4 mai 1897, 143 personnes auront péri dans l'incendie du bazar de la Charité, de la duchesse d'Alençon. Seulement quelques restes seront identifiés et de nombreux témoins la décriront toujours digne, perdue au milieu de la foule, cherchant des yeux son mari qu'elle ne retrouve pas. L'une des dernières images qu'on étudie d'elle la montre debout au milieu d'un groupe de femmes agenouillées, les mains jointes assez bas devant elle et priant, priant pour son salut et pour celui de ses compagnes.
Et à 14h25 sur Europe 1, c'est l'heure maintenant d'accueillir votre invité, Franck Ferrand, grand spécialiste de cinéma. Vous recevez Alain Rioux, scénariste, écrivain et chroniqueur au Nouvel Obs.
Et vous me disiez, Alain Rioux, que cette terrible épisode de l'incendie du bazar de la Charité, c'était un peu le Titanic français, en fait, c'est vrai.
Non, le Titanic français, c'est-à-dire il y a la catastrophe, il y a le caractère visuel absolument... Vous l'avez raconté d'une façon... totalement terrifiante, véritable,
cinématographique,
c'est vrai. Et en plus, il y a la grandeur et la petitesse humaine. C'est
oui.
Complètement
on
ça.
On a dit que c'était un peu que c'était le naufrage de la noblesse française parce que et de la galanterie surtout parce que les messieurs se sont pas bien comportés, il faut le dire.
Et oui, il y a eu 120 victimes femmes et une poignée d'hommes qui ont péri dans le feu.
C'est-à-dire que ceux qui étaient plus forts ont réussi à se frayer un chemin vers les sorties.
Et
c'est
là,
ça,
on imagine, il n'y a pas de témoignage exact, mais c'est, on imagine très bien.
Alors, le responsable désigné du doigt par la presse de l'époque, c'est cette espèce d'invention du diable qui a mis le feu aux poudres, c'est le cas de le dire, c'est le cinématographe qui faisait ses tout premiers pas à l'époque.
C'est vrai, c'est-à-dire que le cinéma... a eu un succès, un triomphe de curiosité, c'est-à-dire l'affiche dont vous avez parlé, l'image animée, tout le monde voulait voir ça. Et personne ne s'est préoccupé de sécurité ou n'importe quoi. Et les projecteurs fonctionnaient à l'époque avec des lampes à éther.
Et voilà.
C'est-à-dire qui dispensaient des vapeurs totalement inflammables. On pouvait pas. Le miracle, c'est qu'il n'y ait pas eu d'autres bazars de charité.
Bon, oui.
Parce que. Et. Évidemment, le cinéma était, enfin, c'était de l'étoupe, donc n'importe quelle étincelle aurait pu l'enflammer, mais là, c'est le cinéma qui a fait l'étincelle, et c'était pas raisonnable. Alors, il y a eu des réactions, d'ailleurs, très, très violentes, parce que le cinéma n'était pas toujours aimé. C'était un divertissement assez bas, il faut le dire à l'époque, et assez vulgaire. C'est vrai que là, il y avait beaucoup de farces d'assez bas étage. Enfin, c'était quand même quelque chose d'assez formidable. Et on a essayé d'interdire le cinéma à ce propos.
À la suite de l'incendie du bazar de la Charité.
Alors, il y avait quand même des intérêts en jeu. Il y avait l'intérêt du public d'abord, qui en réclamait. Et ensuite, il y avait déjà des groupes qui se constituaient. Il y avait Lumière, bien sûr, et il y avait
alors,
la Gaumont.
Ben voilà, donc si vous voulez...
La Pâté.
Si vous voulez, Alain Rioux, on va revenir avec vous sur les origines de ce cinéma, sur l'invention même des Frères Lumière.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et cet après-midi, avec votre invité Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire de l'invention du cinématographe. Vous recevez Alain Rioux, scénariste, écrivain et chroniqueur au Nouvel Obs.
Alors, il faut dire que cette invention du cinéma, elle a lieu à peu près au moment de ce terrible événement, de l'incendie du bazar de la Charité. Je pense qu'il faut distinguer deux inventions, si vous voulez. Parce que quand on dit on a inventé le cinéma, il y a d'abord l'invention technique des Frères Lumière, on va y venir dans un instant, Alain Rioux, et puis il y a l'invention artistique du genre cinématographique. Ça, c'est une autre affaire. Alors d'abord, techniquement, qui a eu l'idée du cinéma, vraiment ?
L'idée du cinéma était dans l'air. Depuis 4 ou 5 ans, vers les années 1990, il y avait eu des machines qui fonctionnaient, mais oui. toutes exigeaient des oculaires. C'est-à-dire, il y avait un seul spectateur à la fois. Edison a fait les premiers films.
Il fallait coller ses yeux devant un petit appareil.
Oui. Ça s'appelait les Nickelodeon en Amérique. C'est une invention d'Edison. Donc, chaque spectateur avait sa salle de projection. Pour lui-même, c'était un peu la télé, si on veut. Et les frères Lumière se sont dit, mais il faut vraiment que tout le monde, ce soit un théâtre, que tout le monde en profite à la fin. Et les frères Lumière étaient des fabricants de pellicules, des industriels déjà assez rares, assez riches. Et la pellicule, c'était plutôt des plaques de verre. Mais ils étaient parmi les meilleurs du monde. Et ils venaient d'inventer le celluloïde. C'était, et pour eux, le cinéma était un petit peu un rêve commercial. Et ils se sont dit, il faut donc faire défiler très vite des images et les fixer. Ils se sont tout simplement servis du principe des machines à coudre de Madame Lumière
avec
même.
Avec la petite aiguille. Hein.
Avec la petite aiguille, la croix de Malte. Hein, et ça a marché. Et les projections, alors ça a été une traînée de poudre. Et en plus...
Au départ, les projecteurs, si je ne m'abuse, étaient horizontaux d'ailleurs. Hein, parce que nous, on est habitués à les voir verticaux, non? La toute première machine qui est présentée dans le sous-sol du Grand Café des Capucines.
Oui, mais c'est un kinésoscope.
Ah, c'est pas tout à fait.
Un kinétoscope qui reproduit le mouvement simplement d'un cheval
voilà,
au galop.
Ça, ouais.
C'est assez simple, ça a permis beaucoup de progrès. Mais sinon, les projecteurs ne sont pas radicalement différents de ce qui était maintenant, sauf... les lampes, qui à l'origine étaient des feux assez vifs, une espèce de lampe à pétrole ou à éther formidable. Et après la catastrophe dont nous avons parlé, ils se sont tout simplement arrangés pour enfermer le feu et ça a sauvé le cinéma. Mais donc, les frères Lumière réussissent la projection publique, ce qui, d'une part, est commercialement formidable parce que ça permet, ça coûte rien, un film muet, ça coûte rien, ils filment la sortie des ateliers de leur usine et les gens sont fascinés par ça. Assez vite, d'ailleurs, évidemment, ils vont un petit peu s'enlacer et les frères Lumière inventent des scènes plus ou moins loufoques. C'est là que la relative vulgarité dont je parlais
tout
à l'heure...
C'est là que ça laisse un peu à désirer.
Des militaires et des bonnes d'enfants, c'était le public visé. C'était bien pendant que les patrons chics allaient au théâtre.
Un public forain, en quelque sorte. Hein.
Oui, un public forain et des attractions foraines. C'est-à-dire que les frères Lumière, en fait, et la Gaumont existaient. La Gaumont existait avant l'invention du cinéma, puisque c'était des... vendeurs d'appareils photographiques. C'était des commerçants, ils vendaient. Donc, ils ont vendu en quantité les projecteurs. Et ça, les gens ont acheté les projecteurs pour, à la campagne, aller les montrer, sans jamais se soucier de sécurité. Et lorsqu'il y a eu le drame du bazar de la Charité, les gens qui n'aimaient pas trop ce divertissement ont voulu le faire interdire. Le grand public n'était pas très chaud pour ça. Et les industriels non plus, donc il s'est produit quelque chose, c'est qu'on a d'abord créé dans les salles de cinéma des cabines. C'est-à-dire, ça n'arrangeait rien du tout, sauf que seul le projectionniste brûlait.
Oui.
Ce qui est arrivé de temps en temps. Et alors, détail horrible, mais on est horrible dans toute cette histoire, c'est que les salles ont vendu beaucoup plus cher les places qui étaient près de la sortie.
De façon
à ce que les gens puissent se sauver.
En cas d'incendie, on était sauvés. Alors ça, c'est l'aspect technique, disons. Mais il y a un aspect artistique qui très vite va naître, bien sûr, avec un magicien à tous les sens du mot.
Oui. C'est-à-dire que, je vais saluer la projection publique et les frères Lumière, parce que les frères Lumière ont inventé l'émotion collective. Pour faire un bon film, il faut qu'à un certain degré, ils trouvent quelque chose chez tous les êtres humains. Mais les frères Lumière faisaient essentiellement des actualités. C'était le cinéma du réel, c'était le jour. Et il reste la nuit, et la nuit on rêve. Et il y a un inventeur de rêves qui est né, qui s'appelle Méliès.
Georges Méliès.
Georges Méliès, qui était magicien de son métier, et qui un jour a fait une expérience. C'est le hasard qui a inventé le vrai cinéma du rêve. C'est-à-dire, il avait acheté un appareil pour en faire quelque chose, et il l'avait essayé sur la place de l'Opéra. Donc l'appareil tournait en continuité, et puis à un certain moment, sa pellicule a cassé. Alors il s'est arrêté pour la réparer et puis il l'a remise en marche. Et quand il a vu le résultat, sur la place de l'Opéra, un autobus était devenu un corbillard. Parce que le temps avait passé, la circulation. Et il s'est dit, nom de Dieu, Voilà la solution. Et à partir de là, il a inventé le trucage.
C'est ça. Au départ, c'était un trucage de magie, mais très vite, on va en faire un effet comique. Il ne faut pas oublier la dimension comique de ce premier cinéma.
Ah, bien sûr. C'est-à-dire que les gens vont acheter... Les gens, il y a une règle absolue, c'est que les gens vont acheter au spectacle ce qu'ils n'ont pas dans la vie. Et les duchesses du Bazar de la Charité allaient acheter du réalisme et les gens qui avaient des vies difficiles allaient acheter du rêve, et de rire. La drôlerie, du sûr, rire, des gens sûr. Qui ne riaient pas dans leur vie.
Alors, tout ça est très français. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique quand même? Parce que je raconte cette semaine le destin incroyable de Charlie Chaplin et dans un instant, je vais venir à l'arrivée de Charlie Chaplin aux États-Unis et à ses premiers tournages de cinéma. Comment se fait-il qu'il y ait déjà au même temps du cinéma de l'autre côté là-bas en Amérique?
Oh mais d'une part, c'est parce que Edison lui-même avait commencé à faire des films et très vite, il a pris le projecteur des Lumières, le principe des Lumières. Et puis, d'autre part, l'Amérique était un pays d'Européens. À l'époque, presque tous les récents immigrés arrivaient d'Europe, des pays d'Europe, avaient les mêmes goûts. Et ça allait très vite, vous savez, un bateau, on amène une caméra, on amène... Les caméras et les projecteurs étaient la même chose, donc tout de suite, on peut faire... Et ces gens-là étaient misérables, avaient quitté l'Europe parce qu'ils crevaient de faim. Et très vite, il va falloir qu'ils rient.
C'est un peu le théâtre populaire, finalement.
Hein, complètement, c'est exactement le théâtre populaire. C'est Guignol. D'ailleurs, très très vite, on va voir se dessiner un cinéma comique dans lequel les petits rossent les gros. C'est très
entendu.
Très important.
Et quand vous dites les gros, il y a Arbuckle, évidemment, Fatty Arbuckle, qui est le plus célèbre.
Ce personnage merveilleux.
Alors, il y a une société qui ressort lorsqu'on parle des producteurs américains dans ses tout débuts balbutiants d'un cinématographe qui est en train de conquérir les masses, c'est la société Keystone, en fait. Quel a été son rôle, réellement, à cette société Keystone?
Vous savez, balbutier, ça va très vite. Il se passe à peu près 10 ans entre l'invention du cinéma et le moment, un peu plus de 10 ans, et le moment où le cinéma devient d'abord, vous avez une très grosse société en Amérique, et c'est la société Pathé. La société française, qui est la première, a compris que là-bas, il y avait un public sans limite, donc c'était une société puissante, et un Américain, mais qui faisait toutes sortes de films. Il y avait des mélodrames, enfin ça correspondait au goût du public. Il y avait même des films religieux, parce que c'était... Il y avait on prenait le public par ses... On le divisait. Et ce qui faisait l'unanimité, donc, c'était la drôlerie. Alors un homme dont on ne parle jamais assez, qui s'appelle Max Sennett, qui était un acteur un peu raté, un acteur comique un peu raté, mais qui avait une espèce de génie de la production cinématographique, pas au sens de l'argent, mais de ce qu'aimaient les gens, de ce qui pouvait les faire rire,
a inventé, du public, en fait, hein.
Délibérément, a inventé délibérément pour son public trois éléments qui faisaient un peu scandale et qui ne pouvaient que charmer les hommes, les messieurs qui allaient au cinéma. Il y avait des films contre les belles-mères, il y avait donc des jolies filles, ils s'appelaient les Basing Beauties, et il y avait des flics ridicules. Parce que les policiers, il faut bien le dire, chez les petites gens, étaient un petit peu... Enfin, c'est assez facilement l'ennemi des petites gens, les gens chargés de faire appliquer les règlements. Donc, il a inventé ce qu'on a appelé les Keystone. Keystone, c'est Pierre de Touche, bon, c'est le nom qu'il a choisi. Il y avait les Keystone Cops, qui étaient des policiers, des faux policiers, évidemment, totalement grotesque, qui mettait les gens en joie, qui nous font rire encore aujourd'hui, les jolies filles en maillot de bain et beaucoup de sympathie pour les alcooliques.
Et puis le vagabond, oui, voilà. va arriver notre Charlot quand même là-dedans.
Et voilà. Alors Charlot était lui-même presque un vrai vagabond américain qui avait vécu dans la misère, mais qui a le génie du mime absolument extraordinaire, qui pouvait imiter n'importe qui en quelques secondes, qui arrive deux fois d'ailleurs aux États-Unis. Il fait une première tournée avec sa troupe qui s'appelle Fred Carnot,
oui, qui est un entre-deux. Oui.
Et bon, ça marche bien, mais le ciné est là. Quand il revient, il y a eu le temps, les producteurs, les gens qui commandent, le cinéma s'est développé et on l'attend pratiquement à la sortie du bateau, à la descente du bateau, pour lui proposer des contrats. Alors, lui faisait des représentations de music-hall dans des petits théâtres, dans des choses comme ça, etc. On lui lui propose des contrats mirifiques. Il tient un mois, puis au bout d'un mois, il quitte la troupe pour signer, et il signe, et il va faire ses films comiques.
Si vous voulez, Alain Rioux, c'est ce que je vais raconter maintenant. Oh, ou sinon, je vous laisse le micro. Et vous... Parce que je pense que sur Charlie Chaplin, vous le feriez
aussi bien. Absolument.
Mais non, c'est nous sommes ravis de vous entendre, c'est un bonheur. Merci beaucoup, Alain Rioux. Vous êtes l'homme du cinéma dans cette émission. Et alors, nous attendons votre scénario pour un grand film sur le bazar de la charité. C'est le passage de Charlie Chaplin de la scène au cinéma que nous allons revivre dans un instant, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur sa manière de jouer, dont je vous disais hier qu'elle était très extravertie, très visuelle, qu'elle relevait beaucoup de la pantomime et de ce que Fred Carnot avait pu lui apprendre justement. Et d'un seul coup, c'est une manière plus intériorisée que va adopter Charlie Chaplin, sans doute plus universelle aussi. Il va pour ses nets justement. Tourné dans quelques 35 courts-métrages, des films dont beaucoup sont oubliés aujourd'hui, mais qui vont imposer à l'échelle de la planète entière le fameux vagabond avec le chapeau melon, la petite moustache et bien entendu la canne de bambou.
Repin au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et toute cette semaine, le grand destin d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1 est consacré à Charlie Chaplin. On l'a vu hier, Charlie Chaplin grandit dans la misère de Londres, puis il est repéré par Fred Carnot. Il part donc en Amérique et de la scène au cinéma. C'est donc le thème de ce deuxième épisode.
Et oui, alors on va le voir petit à petit affiner son personnage. Au début d'ailleurs, il joue le rôle plutôt d'un gentleman avec redingote, col cassé, monocle. Le monocle est le premier accessoire qu'il va laisser tomber parce qu'il a compris, tout simplement en regardant les rushs et en regardant ses petits films, hein, qui ne durent pas longtemps, ce sont des films de deux bobines, généralement, comme on disait à l'époque, parce qu'on mesurait en bobines, il se rend compte que le monocle ne passe pas à l'écran et qu'il le rigidifie, en quelque sorte. Alors, il va affûter ses tics, il va alléger un petit peu son déhanchement de cheminot dérouté, comme nous le dit Yves Salg, et il rase la barbiche, et puis, il coiffe le melon et adopte la badine pour devenir, donc, ce personnage de Charlot, cette espèce de solitaire auquel chacun peut plus ou moins s'identifier. Le premier film où apparaît Charlot, on est en 1914, très grande année pour Charlie Chaplin, qui va jouer 22 films cette année-là, vous imaginez. 1914, le film s'appelle Making a Living, pour gagner sa vie, si vous voulez. Et le personnage est né, on va le voir désormais pendant longtemps, jusqu'en 1936, jusqu'au temps moderne, puisque c'est dans les temps modernes que Charlie Chaplin apparaît pour la dernière fois. Est-ce qu'il y a de fascinant, et là encore je m'abrite derrière Yves Salg pour en juger et pour en parler, ce qu'il y a de fascinant, c'est la capacité que Charlie Chaplin peut avoir de se hisser jusqu'à l'archétype. Il crée en quelque sorte des états d'âme qui sont fulgurants, que chacun comprend. Il est tour à tour tendre, évidemment, Charlot, et fragile, et naïf, parfois idiot, lyrique, fataliste, inquiet, poétique, stupide, amoureux, philosophe, impertinent, solennel, agressif aussi, pourquoi pas, loyal, débonnaire. En tout cas, il n'est jamais ni méchant, ni injuste, ni impur. C'est peut-être cela le véritable secret de Charlie Chaplin. Didier Vallée nous dit « La genèse du personnage de Charlot est intéressante dans la mesure où costume et caractère sont intimement liés, ils se déterminent l'un l'autre. C'est dans son second film, qui s'appelle donc Charlot et Canton est content de lui, que Chaplin adopte grossièrement, en empruntant divers accessoires autour de lui, son costume de vagabond. Pantalon trop grand issu de la garde-robe du gros Fatty Arbuckle dont nous parlions tout à l'heure. Des souliers beaucoup trop larges, taille 45. Lui, il chaussait du 38, hein, Charlie Chaplin, faut le savoir. Des souliers 45 appartenant à Fort Sterling. Les souliers inversés qui permettent d'ailleurs de tenir à ses petits pieds. Jaquette étriquée fermée par une épingle de nourrice. Le melon trop juste, qui semble-t-il serait celui celui du père de l'actrice Minta Durfee, la lèvre supérieure barrée par cette large moustache en brosse, qui va peu à peu être de plus en plus rapetissée, hein, cette moustache qui va devenir quasiment une ombre à la fin. Alors, un certain nombre de films sont réalisés dans la foulée. On voit, le personnage est très intéressant quand on arrive à les remettre dans l'ordre, parce que tout ça a été fait un petit peu à la va-vite et sans grand classement. Lorsqu'on arrive à remettre tout ça dans l'ordre, on voit évoluer le personnage jusqu'au 11e film qui s'appelle 20 Minutes of Love, 20 minutes d'amour. Et là, dans ce film, on peut dire que le personnage de Charlie Chaplin est véritablement né. Au début de sa collaboration avec Sennett, Chaplin était en train de se chercher. Au bout de 11 films, ça va très vite parce que ces films sont tournés à la cadence d'un toutes les 2 à 3 semaines. Au bout de 11 films, le personnage est véritablement né. Ce personnage, il doit beaucoup à un grand comique français dont on ne parle pas assez. Je sais que nous allons faire plaisir en le disant à Alain Rioux qui écoute tout ça avec beaucoup d'attention. C'est évidemment Max Linder. J'y viens dans un instant.
Les connaisseurs auront reconnu la musique du film La Ruée vers l'or, sorti en 1925, un film qui raconte l'histoire de ces chercheurs d'or dans le Klondike, au nord-ouest du Canada, avec Charlie Chaplin, bien sûr. On parle de Charlie Chaplin et de son arrivée aux États-Unis jusqu'à 15h sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et sur Europe 1, c'est la suite de ce deuxième épisode du Grand Destin de Charlie Chaplin, toute cette semaine sur Europe 1. Et dans la vie de Charlie Chaplin, il y a celle de ce grand comique français, star du cinéma muet, Max Linder.
Et oui, Max Linder. Vous savez, je vous ai parlé hier de cette tournée qu'avait pu faire Charlie dans la troupe à l'époque de Carnot. On est en 1909. Il s'était produit, je vous l'ai dit, sur la scène des Folies Bergères. Et c'est au cours de ce séjour à Paris qu'il découvre Max Linder, dont beaucoup plus tard, vous savez qu'il rachètera les films et auquel il adressera cette dédicace que je trouve extraordinaire à Max, le seul, l'unique, mon professeur, et c'est signé son élève Charlie Chaplin. Évidemment, Linder à l'écran était plutôt une sorte de dandy, lui très élégant, et c'est un peu comme si Charlie Chaplin, en reprenant un certain nombre des éléments de jeu de Max Linder, en proposait une sorte de caricature populaire et infiniment plus accessible, il faut bien le dire. Alors, certains critiques ont tenté de rapprocher le personnage de Charlot, alors qu'il porte tous les noms possibles. Hein. Charlot, selon les pays du monde, devient Charlie, évidemment, Carlos, Carlino, Carlitos, Carlichen, etc. Il y a presque un nom par langue différente. Ce personnage qui va séduire le public du monde entier s'inspire peut-être aussi d'une certaine tradition théâtrale juive. Et d'ailleurs, c'est Théodore Huff qui affirme qu'en 1906, Chaplin présentait déjà un numéro intitulé « Sam Cohen, le comique juif ». Mais, je vous l'ai dit hier, le grand artiste n'a jamais été lui-même extrêmement clair sur ses origines juives ou non. Voilà en revanche ce que Chaplin écrit à propos de son fameux personnage, de ce personnage qui maintenant est en train de conquérir le monde. « Ce costume, dit-il, m'aide à exprimer ma conception de l'homme de la rue, de presque n'importe quel homme, de moi-même. Le melon trop petit est un effort pour paraître digne, la moustache est vanité, le veston boutonné et étriqué, la canne et toutes ses manières tendent à donner une impression de galanterie, de brio, de petite effronterie. » J'aime bien cette expression, c'est exactement ça. « Il essaie de faire bravement face au monde, de bluffer, et il le sait. Il le sait tellement bien qu'il peut se moquer de lui-même et s'apitoyer un peu de son sort. » Nous avons tous des souvenirs à propos, évidemment, de ce personnage de Charlot. sans entrer dans les confidences personnelles, je dois vous dire que mon tout premier projecteur de cinéma, je l'ai eu quand j'avais 8 ou 9 ans. C'est un tout petit projecteur de Super 8. Et livré avec, si je puis dire, il y avait trois bobines, qui étaient trois bobines de trois des premiers films que Charlie Chaplin avait tourné sous la direction de Max Sennett. Et ces films, qui ont l'air tellement naïfs et tellement peu importants lorsqu'on les regarde d'un œil détaché, si vous y attachez la véritable importance qu'il mérite, vous y découvrirez une véritable leçon de comédie. Parce que ce qu'on a tendance à oublier quand même dans tout ça, c'est le génie fracassant de cet homme qui, avec deux fourchettes et deux petits pains, est capable de vous créer le plus formidable des danseurs. Rappelez-vous, ça c'était évidemment dans La ruée vers l'or. Ça, c'est pour le côté très anecdotique, mais il faut dire que Charlie Chaplin entre dans l'histoire. Il y entrera, et nous raconterons ça demain, il y entrera vraiment avec le dictateur, là où il fait un véritable bras de fer avec toute la doctrine et toute la propagande nazie, vous imaginez, au moment de la, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y entre déjà lors de la Première Guerre mondiale. Dites-vous que lorsque les soldats obtiennent des permissions à partir de 1916 et qui s'en vont à l'arrière, vous savez, cette espèce de grand mouvement, hein, ce grand renouvellement au moment de la bataille de Verdun notamment, qu'est-ce qu'on leur projette? Eh bien, on leur projette des films essentiellement de Charlie Chaplin. Et c'est Blaise Cendrars qui dira plus tard, si la France a gagné la Grande Guerre, c'est grâce au père Pinard, bon ça vous voyez de quoi on parle, et à Charlot. De 1914 à 1924, la série des Charlots, depuis donc Charlot est content de lui, titre français, jusqu'au Pèlerin, bien entendu, sublime, cette série représente 74 films, dont la plupart sont des courts-métrages. Le plus long, c'est Le Kid, 6 bobines. Donc là, on est vraiment déjà dans un film qui est un long-métrage. Au départ, Charlie est salarié d'un certain nombre de films, donc la Keystone, dont nous avons parlé, Essanay, Mutual, First National, avec laquelle il va faire tous ses dernier film, mais c'est un salarié très privilégié puisque ses cachets sont énormes. Il est très vite, en 3 ans, l'artiste le mieux payé d'Hollywood, avec des droits d'exploitation exclusifs qui font de lui le maître absolu de sa propre carrière et de l'image qu'il veut donner à travers Charlot. Il n'est pas rare qu'un seul film, je pense à Charlot Concierge par exemple, ou à Charlot Policeman, qui a été le plus célèbre passé, alors là en boucle, hein, non il n'est pas rare qu'un film lui rapporte $1 million. Or, si cet homme est à la fois charmant, drôle, élégant, etc., c'est un artiste de génie, nous l'avons dit, mais c'est aussi un homme d'affaires extraordinaire qui va savoir placer son argent, spéculer, monter des opérations incroyables, dont certaines d'ailleurs sont plus ou moins racontables. En tout cas, il prospère, il devient un homme immensément riche dans le courant des années 20. Et il y a une chose qui le rend malade, c'est ces 30% qui reviennent toujours aux distributeurs. Et c'est ce qui va l'amener, en 1919, à créer la société United Artists, vous savez, les artistes associés, qui va produire ses propres films et en produire beaucoup d'autres, avec Mary Pickford, Douglas Fairbanks et le grand David W. Griffith, l'homme d'Intolérance et de Naissance d'une Nation, vous savez. Ce sont ces quatre personnages, avec un conseiller financier extraordinaire d'ailleurs, qui vont créer la United Artists. La liberté de création de Chaplin à partir de ce moment-là est totale. Quant à son train de vie, il est tout simplement royal. Une résidence dans Hollywood, dans Beverly Hills, qui ressemble exactement à un palais, c'est la plus grande des villas d'Hollywood, un appartement de 18 pièces à New York, tout le personnel qu'on peut imaginer, les chauffeurs, maîtres d'hôtel, cuisiniers, jardiniers, etc. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, c'était hier, que je vous racontais l'histoire de ce petit comédien de rue, misérable, sorti du ruisseau londonien, qui n'était rien, qui ne vivait rien. Et voilà que le personnage va devenir cette espèce de nabab d'Hollywood. Désormais, Chaplin tient salon, il reçoit des chefs d'État sur ses plateaux, il donne des dîners en l'honneur de Nijinsky ou d'Upton Sinclair. son visage, sa silhouette sont bien sûr les plus connus d'Hollywood. La foule se presse à la moindre de ses apparitions. La rançon de cette gloire, la contrepartie de cette visibilité exacerbée, ça va être des ragots, des jalousies, des campagnes de presse, un parfum de soufre et de scandale qui désormais va accompagner la carrière de Charlie Chaplin et précéder chacune de ses apparitions. Parce que là, je vous ai raconté pour l'instant dans le beau côté des choses. Demain, nous évoquerons les très grands films, les mythes, les merveilles absolues, les lumières de la ville et tout ça, vous savez, bien sûr. Mais nous évoquerons aussi, parce qu'il faut le dire, les déboires de Charlie Chaplin, pas seulement sentimentaux, je dirais que d'une façon générale, il va devenir le gibier à abattre pour la presse américaine.